Et maintenant, une conférence tenue le 5 octobre par Gabriel Lefebvre et Éric David, co-auteurs du livre « Juger les multinationales » aux éditions Mardaga. Cette conférence s'est déroulée dans le cadre des tribunes de l'ULB.
Le sujet de ce soir, donc, qui est consacré à l'ouvrage qui s'intitule « Juger les multinationales », est vraiment tout à fait dans le vent. Hein, les événements récents, Caterpillar, mais même ING, qui est aussi une multinationale après tout, puisque ça appartient aux Pays-Bas, montre à quel point ce sujet est d'actualité. Est-ce que les multinationales sont des êtres qui sont en dehors du droit, ou bien sont-elles soumises au droit, et à propos de quels faits, à propos de quelles actions, à propos de quels comportements? Et c'est à cela que Gabriel Lefebvre, essentiellement, a répondu. Elle a répondu, Gabriel Lefebvre, qui était bien placé pour le faire, il est journaliste, elle était journaliste au soir, elle était journaliste à la Cité au soir, elle est toujours journaliste d'ailleurs, puisqu'elle anime, elle est une des animatrices d'un site qui s'intitule Entre les lignes, que je vous recommande très chaleureusement, et qui est un peu une autre vision, une autre lecture de l'actualité qui est faite par les personnes qui participent à cette aventure qui s'intitule donc Entre les lignes et que vous trouverez aisément si vous tapez Entre les lignes sur votre navigateur favori. Alors, Gabriel Lefebvre a donc écrit cet ouvrage. Elle est spécialiste dans les problèmes de développement, d'urbanisme et d'évolution sociétale. Elle était bien placée pour parler de tout cela parce que c'est un sujet qui lui tient à cœur et sur lequel elle s'est penchée très longuement. Et nous étions en quelque sorte presque des précurseurs, et j'ai envie de dire, puisque le CETIM, qui est une association suisse, qui n'est pas une multinationale, celle-là, mais vient elle-même aussi de sortir un petit ouvrage qui s'intitule « Impunité des sociétés transnationales ». Vous voyez, on fait de la publicité même pour la concurrence. Hein, voilà, c'est vous dire à quel point le sujet est vraiment d'actualité. Et donc, c'est de cela dont Gabriel Lefebvre va vous entretenir ce soir, pendant un quart d'heure, 20 minutes, hein, peut-être même un peu plus. Et puis ensuite, bien sûr, la parole vous sera donnée, comme toujours, comme selon la tradition de la maison, et vous pourrez poser toutes les questions que vous voudrez, auxquelles Gabriel et moi-même nous répondrons, ou nous essayerons de répondre, en tout cas. Personnellement, je me bornerai simplement à apporter un éventuel point de vue juridique. Voilà, Gabriel Lefebvre, tu as la parole.
Merci beaucoup, mon cher Éric. Je vais quand même lui dire « tu » parce qu'on a quand même travaillé quelques mois. Il ne doit pas dire qu'il est une pièce rapportée, il est une pièce essentielle. Ce livre n'aurait aucun sens s'il n'y avait pas justement le travail juridique, l'analyse juridique et le débat, parce que bon, tu viens de citer le livre du CETIM, « Centre Europe, Tiers Monde ». Mais vous avez un débat entre juristes au sujet de certaines des propositions de ce livre. Je vais d'ailleurs en parler ici aussi. En fait, oui, ce qui nous a motivés, c'est que c'est notre co-éditeur, si j'ose dire, le GRIP, qui nous avait demandé si on ne pouvait pas envisager une sorte de tribunal pénal international sur les multinationales. Je dis, tiens, au fond, pourquoi pas ? C'est une idée intéressante dans la mesure où les scandales sont permanents. Il y a des morts en permanence dans de nombreux pays, des syndicalistes, des travailleurs. Il y a des pollutions, il y a même des empoisonnements de personnes à cause de produits toxiques. Il y a des évasions fiscales à plusieurs milliards sans arrêt qui sont impunies. Il y a des terres complètement ravagées et tout ça dans la plus parfaite des impunités. Et chaque jour, l'actualité nous amène des cas différents dans les différents pays du monde. Donc il faut faire quelque chose. Moi-même, j'avais eu l'occasion de participer à certains forums sociaux mondiaux où là aussi j'ai eu l'occasion de rencontrer quantité d'associations qui s'unissent pour dénoncer les exactions des multinationales. à côté des syndicalistes et des associations syndicales, soit internationales, soit nationales, groupements de travailleurs, groupes de population, différentes ONG de lutte pour la défense de l'environnement, etc. Vous n'imaginez pas les centaines et milliers de personnes qui militent à travers le monde pour dénoncer ce problème. Ce problème qui est vraiment, comme je vous l'ai dit, grave, mortel même pour de nombreuses personnes. Alors, j'ai choisi, et Eric l'a introduit déjà, j'ai choisi évidemment un problème d'actualité pour vous parler. On n'en parle pas tellement dans le livre, mais il est exemplatif de ce qui s'écrit et de ce que nous avons tenté de démontrer dans le livre. Donc, c'est bien entendu Caterpillar. On devrait rester quand même dans une actualité qui nous est proche. Le problème que nous évoquons ici nous touche donc en effet au premier chef. Cette firme fonctionne très très bien. Elle rapporte énormément d'argent. Il n'y avait aucun problème. Elle a annoncé d'ailleurs elle-même, et là je cite, qu'en 2015, nous avons racheté pour 2 milliards d'actions et augmenté le dividende trimestriel de 10%. Et nous augmentons le montant du dividende depuis 22 ans consécutifs. Et depuis 2007, notre dividende a plus que doublé. C'est une citation dans un rapport annuel de Caterpillar. On peut ajouter aussi que la firme a comptabilisé 785 millions de dollars de bénéfices opérationnels sur le seul second trimestre 2016, pour un chiffre d'affaires de 10,3 milliards. Et parce que ces ventes ont reculé de 16% au second semestre et qu'il fallait quand même continuer à donner de si beaux dividendes aux actionnaires, etc., elle décide de restructurer ses filiales en Europe. Et donc, on perd 2000 emplois, voire même 4000 si l'on compte les sous-traitants et donc tous les emplois induits autour de l'activité de la firme, une firme qui se portait extrêmement bien. Le problème, c'est qu'effectivement, tout ça est parfaitement légal. On ne peut pas les attaquer d'un point de vue juridique. C'est un problème qui est moral, qui est un problème politique, qui est un problème syndical. Là, c'est aux politiques, évidemment, à agir et aux syndicats à protester pour essayer d'obtenir un maximum de compensation. Mais le mal est fait et le mal restera fait en toute impunité. Par contre, des contrats passés par Caterpillar pourraient, eux, être attaqués par le biais du droit et notamment du droit international. Et c'est ce qui avait été démontré par la session de Londres du tribunal Russell sur la Palestine. Ça se passait déjà en 2010. Et Caterpillar a été cité parmi les entreprises qui soutiennent la colonisation illégale par Israël des territoires palestiniens. Une colonisation qui constitue un crime de guerre, une violation de la 4e Convention de Genève. Et les entreprises qui la soutiennent sont donc complices de ce crime. Et Caterpillar a été aussi recensé par des entreprises qui aident Israël à construire le mur de séparation déclaré illégal en 2004 par la Cour internationale de justice de La Haye. Donc il y a donc des outils de droit international qui peuvent être utilisés. Malheureusement, dans le cas de cette firme, là aussi, ce fut un échec. Mais l'action citoyenne, à ce moment-là, peut prendre le relais de la justice défaillante. Et Caterpillar a été boycotté par des citoyens aux États-Unis pour la mort de la jeune Rachel Corey, écrasée par un bulldozer de cette firme. Bulldozer qui a été vendu à l'armée israélienne, qui l'utilise comme arme de destruction des maisons de Palestiniens de Gaza. C'était en 2003, mais jamais l'armée israélienne n'a été condamnée, jamais la firme n'a été inquiétée pour ses ventes à un pays qui pourtant en occupe un autre, ce qui est illégal. Le commerce prime donc. Le problème fondamental est donc quoi ? Le manque de volonté politique. Le problème n'est pas l'opposition des citoyens. Cette opposition est ferme à des pratiques qui sont condamnables à la fois moralement et juridiquement. Nous retrouvons ce genre de cas dans énormément de situations un peu partout dans le monde. Je viens à une autre actualité, Monsanto Bayer. Dans notre livre, déjà, nous évoquons plusieurs fois Monsanto et des actions judiciaires dont certaines ont réussi contre Monsanto, Monsanto est largement connu pour le problème de l'affaire de l'agent Orange. Et Bayer, ici, nous expliquons le cas de cette firme qui a été déboutée par la justice indienne de l'Inde, car la firme voulait empêcher la production locale d'un médicament générique contre le cancer, qui est infiniment moins cher que celui de Bayer. Certaines actions donc judiciaires réussissent fort bien, mais elles n'égratignent qu'à peine ces puissantes multinationales. Et ça n'a pas empêché donc Bayer de racheter Monsanto pour la petite somme de 59 milliards d'euros. 59 milliards d'euros pour racheter une firme qui était nettement déconsidérée au niveau mondial pour les scandales du glyphosate commercialisé sous le nom de Roundup, que vous connaissez bien, pour les semences OGM et des pratiques brutales, mais vraiment brutales, envers des agriculteurs qui refusent d'utiliser ces produits. Mais Bayer achète Monsanto et se permet ainsi de mettre main basse sur tout ce patrimoine de semences génétiques, de recherches scientifiques, de brevets, etc. 59 milliards. On m'avait pourtant dit que la libéralisation du commerce allait faire une concurrence entre les entreprises et faire baisser les prix. Et on constate plutôt l'inverse, on constate des concentrations qui donnent naissance à des monstres dont la puissance de frappe est inimaginable. D'où la difficulté de plus en plus grande pour les groupements de citoyens et pour les États eux-mêmes de s'attaquer à ces monstres. Mais nous y reviendrons. Dans le cas de Monsanto, là aussi, puisqu'on ne peut pas trop les attaquer au point de vue judiciaire, on n'a pas tellement les moyens financiers de les attaquer au niveau judiciaire, il y a un moyen populaire qui est mis en place. Et c'est tout à fait dans l'actualité, parce que ça va se passer les 14 et 15 octobre à La Haye. Et c'est un vrai faux tribunal. C'est un tribunal citoyen. Donc, il est vrai dans la mesure où il y aura des gens reconnus comme experts au niveau mondial, etc. Et tout, ils vont suivre toutes les procédures tout à fait vraies d'un tribunal. Mais c'est un faux tribunal parce que ce ne sont pas des juristes et ça ne se passe pas dans le cadre d'un tribunal comme la Cour pénale internationale ou autres tribunaux qui pourraient juger des actions de Monsanto. Voilà pourquoi ce vrai-faux tribunal accuse Monsanto. Ils accusent de violation des droits humains, de crimes contre l'humanité et d'écocide. Une assemblée des peuples, se tiendra parallèlement afin de rallier les mouvements sociaux et de planifier ensemble le futur que nous souhaitons, nous citoyens. Dans ce cas-ci, je pense que je me mettrai bien parmi ces citoyens, donc je dis nous. Parmi les experts qui participeront à ce tribunal, je cite Vandana Shiva, je ne sais pas si vous la connaissez, c'est une militante altermondialiste indienne remarquable, fabuleuse, et nous la citons d'ailleurs relativement longuement dans notre livre à propos de Coca-Cola. Donc je vous recommande de ne plus boire de Coca-Cola après avoir lu ce que nous disons et ce que dit Vandana Shiva de Coca-Cola, qui a été condamnée parce que cette firme, comme vous le savez peut-être, s'accapare de manière éhontée l'eau potable des paysans indiens. Donc Vandana Shiva sera à Bruxelles, après avoir été à La Haye, elle sera à Bruxelles au Festival des Libertés qui débute ce 20 octobre. Je vous recommande donc le Festival des Libertés et je vous recommande de tenter de rencontrer Vandana Shiva, qui vaut la peine, c'est une des grandes personnes de notre temps actuel, parmi les militants altermondialistes et autres. Je vous recommande aussi de suivre, si vous le voulez, le tribunal, le vrai faux tribunal contre Monsanto. J'ai les références ici, c'est monsanto-tribunalf.org. Ah oui, et qu'est-ce qu'on reproche aussi à Monsanto? On va détailler tous ces méfaits, si j'ose dire, à savoir, je cite, « lobbying auprès des agences de réglementation et des autorités gouvernementales, mensonges et corruption, financement d'études scientifiques frauduleuses, pression sur les scientifiques indépendants, manipulation des organes de presse, etc. » Tout ça vous démontre que Monsanto est vraiment un paradigme, mais le paradigme de l'impunité des entreprises transnationales et de leurs dirigeants qui contribuent au dérèglement du climat et de la biosphère et menacent la sûreté de la planète. À suivre donc et à diffuser, s'il y a moyen, parmi tous vos amis qui s'intéressent à ce genre de choses. Je crois beaucoup à l'opinion citoyenne et je crois beaucoup aux mobilisations autour des tribunaux citoyens de ce genre-là. C'est une nouvelle manière de faire pression, non seulement sur les firmes, mais sur nos pouvoirs publics et peut-être sur notre système judiciaire, pour lui dire de faire preuve peut-être d'un peu d'imagination pour attaquer ceux qui restent désespérément impunis, désespérément de notre point de vue. On parlait ici d'écocide dans le cas de Monsanto. Voilà un thème qui est extrêmement intéressant et qui fait partie de ces nouveautés à explorer dans le droit pour l'instant. Cette notion d'écocide a été évoquée pour la première fois en 1972 par le Suédois Olof Palme à propos de Monsanto, mais aussi de Dow Chemical, à savoir l'usage de l'agent orange, hein, ce défoliant qui était déversé un nombre incroyable de tonnages de ce poison a été déversé sur les forêts du Vietnam et frontières cambodgiennes afin d'empêcher les combattants Viet Cong d'utiliser la végétation comme un couloir qui les protégerait des avions américains. Et l'utilisation massive de cet agent orange, c'est-à-dire dioxine, a touché particulièrement les femmes et les descendants de ces femmes. Il y a encore maintenant des centaines et des milliers de naissances d'enfants monstrueux, si j'ose dire, à cause des dommages génétiques provoqués par ces pesticides. Tout ça à côté des dommages écologiques qui restent. L'agent orange reste encore dans les sols et empêche toute agriculture dans ces terres polluées. Malgré cela, le crime d'écocide n'a pas été retenu dans le statut de la Cour pénale internationale, à côté des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité, de génocide et d'agression. Mais un mouvement qui s'appelle End Ecocide revendique encore et toujours la mise en place d'une justice internationale de l'environnement et de la santé. Cette matière sur l'écocide évolue sans cesse, et alors là, c'est un dernier échange que nous avons eu, Éric David et moi, c'est à propos d'une annonce, malheureusement biaisée et pas tout à fait correcte, mais d'une ONG importante qui s'appelle Global Witness, et qui clamait que la procureure générale de la Cour pénale internationale, Fatou Bensouda, avait annoncé l'élargissement de son champ d'action pour la première fois à certains crimes environnementaux et d'affirmer que, alors je cite, « désormais la Cour qui juge entre autres des affaires de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité s'intéressera également aux crimes liés à, je cite, l'exploitation illicite de ressources naturelles, à l'appropriation illicite de terres ou à la destruction de l'environnement. » Et l'ONG précisait également les dirigeants d'entreprises et les politiciens complices de l'expropriation de terres, de la destruction des forêts tropicales ou de la pollution de sources d'eau pourraient bientôt se trouver assignés en justice à La Haye aux côtés de criminels de guerre et de dictateurs. Voyant ça, je me suis dit, mais comment est-ce possible? D'abord, je n'avais pas été averti de cette chose-là et c'était tellement énorme. Je dis, il y a quelque chose qui ne va pas. Je demande à Eric de vérifier, lui qui a l'accès aux sources d'informations bien plus facilement que moi. Et donc, immédiatement, il a dû préciser que bon, cette information était vraiment over-optimiste et même fausse, parce qu'il n'est pas question de poursuite par la procureure de la CPI en matière d'environnement, mais simplement de collaboration de son bureau avec les États qui entreprendraient de telles poursuites, à condition qu'il s'agisse d'un comportement lié à un des crimes visés par le statut. Et donc, je cite, « si elle reçoit une demande en ce sens, la Cour peut coopérer avec l'État parti qui mène une enquête ou un procès concernant un comportement qui constitue un crime relevant de la compétence de la Cour ou un crime grave au regard du droit interne de cet État et prêter assistance à cet État. » Donc, Eric pourra probablement détailler plus et répondre à vos questions à ce sujet, Mais donc, il y aurait une possibilité d'une certaine aide, mais dans des conditions qui sont extrêmement précises. La Cour ne peut pas dépasser le statut qui lui a été dessiné. La preuve en a déjà été apportée par un autre cas qui est extraordinairement spectaculaire et dramatique. C'est le cas de Chevron Texaco en Équateur. Ce cas a été lui aussi porté devant la Cour pénale internationale, mais il a reçu une fin de non-recevoir pour les mêmes raisons que celles que je viens d'évoquer. Et pourtant, cette affaire de Chevron Texaco est gigantesque. Il y a à peu près 30 000 Équatoriens, ça se passe en Équateur, 30 000 Équatoriens qui poursuivent la multinationale Chevron Texaco pour avoir contaminé leur sol et leur cours d'eau, avec comme conséquence des conséquences catastrophiques pour la santé, notamment des cancers, parmi eux des leucémies, des problèmes digestifs et respiratoires, des terres complètement inutilisables, et nombreux sont les paysans qui ont dû abandonner leurs terres et donc ont perdu toutes leurs ressources. Les plaignants ont été aidés par des avocats, ce qui est extraordinaire. Ça, c'est un des exemples absolument énorme et extraordinairement important, je trouve. Ils ont été aidés par des avocats, aussi bien américains qu'équatoriens et d'autres nationalités, qui vraiment bénévolement ont dépensé vraiment beaucoup d'argent et ont aidé les plaignants à porter ce litige devant la justice américaine, bien entendu, puisque la firme est américaine. Ils ont été, bien entendu, déboutés, c'est normal. Et même, ils ont été attaqués. Non, je reviendrai après. Ils ont porté l'affaire devant la justice équatorienne. Et là, ils ont réussi à obtenir une condamnation, quand même, de Chevron, qui doit payer une amende de 18 milliards de dollars. Elle a été divisée de moitié en appel. Mais bon, ce qui ne suffit évidemment pas pour réparer tous les dégâts. Les avocats se sont dit, mais on va essayer d'attaquer Chevron par des filiales dans d'autres pays. Le fait est que les États-Unis ne sont pas signataires de la Convention interaméricaine d'exécution des jugements. Donc on ne peut pas attaquer la firme aux États-Unis pour un jugement qui a été fait en Équateur. Par contre, les plaignants ont donc tenté de procéder en Argentine. Mais en Argentine, où il y a une filiale de Chevron, c'est le gouvernement argentin qui n'a pas voulu parce que Chevron lui a promis des milliards d'investissements pour accepter un plan d'investissement dans le pays. Et si le procès se faisait, Chevron a dit « Ah ben non, je me retire d'Argentine ». Donc le gouvernement n'a pas accepté que la plainte puisse être portée en Argentine. Au Canada, par contre, elle est bien pendante pour l'instant. Mais la firme attaquée ainsi au Canada, et qui pourtant, cette firme a engrangé des milliards de bénéfices, attaque les avocats des plaignants, les accusant de conspiration et de tentative d'extorsion. Donc c'est vraiment une affaire emblématique. Elle est toujours en cours, bien entendu. Et il y aura d'ailleurs prochainement, ici à Bruxelles, une assemblée, si j'ose dire, où trois des avocats ou des défenseurs des victimes de Chevron seront là pour essayer d'obtenir un soutien par le biais du bureau, je crois, du Bureau européen des consommateurs, enfin, je ne sais plus très bien lequel, mais je n'ai pas gardé ici les détails. Mais l'affaire est toujours en cours. Ces avocats ont besoin d'aide, en fait, tout simplement. Et pour moi, cette affaire est extrêmement emblématique de la difficulté pour des populations, et notamment des populations pauvres, démunies, et qui ont subi des préjudices gigantesques. Comment peuvent-elles utiliser les armes du droit pour attaquer des firmes aussi importantes? Donc ça, c'est vraiment la question que nous avons tenté de poser dans ce livre et auquel Eric a tenté de répondre. Quelles sont les armes du droit qui peuvent quand même être utilisées, mais ça prend du temps et surtout beaucoup d'argent. Et puis, on se heurte au blocage américain. La plupart de ces firmes se trouvent dans nos pays riches. aux États-Unis, mais également en Europe, etc. Et se sont très très bien protégés, surtout aux États-Unis, qui ne reconnaît pas certaines des conventions qui permettraient d'attaquer, et ne les a pas signées, et n'est pas... Par contre, les États-Unis, il y a parfois des bonnes nouvelles, ce n'est pas dans le livre, mais j'ai pris ça parce que je trouvais assez intéressant. Il y a une jurisprudence américaine qui permettrait de dédommager des victimes d'entreprises, mais ça ne s'adresse que à la population américaine sur des territoires américains. Ainsi, par exemple, en 2014, cette justice américaine a très lourdement condamné, je crois, à plus de 5 milliards de dollars, une firme pétrochimique qui s'appelle Anadarko, pour une importante pollution, notamment radioactive, frappant essentiellement la population Navajo. Mais sur le territoire américain, pour une population américaine, ça marche. Mais tout ce qui se passe à l'extérieur et qui touche des centaines de milliers de personnes, non, là, plus rien. Malgré ces protections, les multinationales poursuivent, mais par tous les moyens et à tout prix, essayent à tout prix d'échapper aux droits et de conforter un système d'arbitrage, un arbitrage privé donc, des différends qui pourraient surgir entre elles, qui surgissent d'ailleurs, il y en a énormément, qui surgissent entre elles et les États. On le voit cela à travers les projets d'accords transatlantiques comme le TTIP et le CETA. Je suppose que vous connaissez tout ça. J'espère que beaucoup d'entre vous ont été manifestés contre ça. Je ne vais pas revenir trop longtemps là-dessus, mais je vais quand même dire que si Monsanto n'a pas vraiment percé en Europe et donc n'a pas trop commis de dégradation, si j'ose dire, dans nos pays, c'est grâce aux réglementations européennes qui, chez nous, sont plus contraignantes que celles des États-Unis en matière de normes phytosanitaires, de santé et d'agriculture, par exemple. Mais ce rachat par Bayer de Monsanto, est-ce que ça nous protégera encore de ces menaces contre nos protections réglementaires? Si Bayer fait pression avec toute sa puissance sur nos États et sur la Commission européenne, est-ce que nous serons encore protégés? C'est un grand mystère. Il semblerait, au vu des dernières nouvelles, que le TTIP ne passera pas la rampe vu l'opposition de la France et celle du ministre allemand de l'économie et de nombreux parlementaires européens ainsi que de millions de citoyens. Mais il reste que le CETA, qui est un accord de libre-échange avec le Canada, qui comporte les mêmes menaces que le TTIP, s'il est signé, permettrait aux firmes multinationales, notamment américaines et canadiennes, de peser de tout leur poids économique sur nos politiques économiques et sociales européennes. Et ça leur permettrait de se soustraire au jugement de nos tribunaux en imposant un système de règlement des différends entreprises et États trop favorable aux entreprises. Même si la Commission récemment a fait un petit peu marche arrière concernant ce procédé de règlement des différends et propose que cela se fasse par des juges professionnels, ce seront toujours des tribunaux de type privé, même s'il y a des juges professionnels et qui fonctionneront selon les normes et les règles qui auraient été établies par les arbitrages commerciaux. Donc voilà, il est essentiel de poursuivre notre mobilisation pour tenter de sauver notre modèle économique et social européen, notre modèle belge ici en ce qui nous concerne. Et l'affaire Caterpillar nous le rappelle vraiment clairement et continue à faire pression sur nos parlementaires, sur nos gouvernements pour qu'on ne signe pas de tels accords dans des conditions semblables. C'est inacceptable et inimaginable pour nous. Un autre aspect qui est extraordinaire, qui est très intéressant et que nous avons tenté de décrire, c'est comment se fait-il que pendant si longtemps les multinationales ont pu bénéficier de l'impunité? C'est bien parce qu'elles ont été protégées par à la fois nos gouvernements, par l'Union européenne, mais aussi par les Nations unies, qui ont privilégié les systèmes d'autorégulation, de régulation consentie, mais sans mesures contraignantes, de quelque sorte que ce soit, pour obliger les multinationales à réparer les dégâts, d'abord empêcher qu'elles en commettent, et puis pour réparer celles qu'elles ont commises. Donc, Nous avons choisi, c'est ce que nous démontrons dans ce livre-là, et je dis quand même nous, parce que Eric a quand même contribué à cette historique, à cette sélection. Nous avons donc sélectionné différents exemples de multinationales. On n'a pas voulu être exhaustif, d'ailleurs c'est impossible, ils sont des milliers de cas dans le monde, mais on a essayé de choisir des multinationales dans des secteurs différents, répartis dans des régions du monde différents. Nous avons choisi des exemples d'actions citoyennes différentes et certains jugements pour lesquels nous avons réussi à nous documenter suffisamment. Et ensuite, nous avons décrit l'échec des différentes formes de régulation par les instances internationales, les échecs de l'autorégulation du commerce, hein, la responsabilité sociale des entreprises, vous connaissez peut-être, c'était un grand mot, d'ailleurs M. Étienne d'Avignon en était le grand porte-parole ici en Belgique, mais on a vu que ça n'a servi à rien. Ça a simplement postposé les autres moyens d'action que nous aurions pu avoir pour moraliser quelque peu le commerce international. Voilà pourquoi, au fur et à mesure de ces échecs, il y a eu des mobilisations de plus en plus grandes, et je vous ai parlé des forums sociaux mondiaux, contre cette impunité, et donc est arrivé le thème de la nécessité de créer des mesures vraiment contraignante contre les multinationales, et donc une sorte de tribunal pénal international spécialisé sur les crimes commis par les multinationales et les atteintes à l'environnement. Et les négociations ont commencé à ce sujet à Genève en juillet 2015, après qu'un projet de résolution ait été déposé, et là en 2014, par l'Équateur, qui est une grande victime des multinationales, et l'Afrique du Sud, au Conseil des droits de l'homme des Nations Unies. Donc il s'agit d'obliger les multinationales à respecter au minimum les droits de l'homme, mais de les menacer de mesures vraiment contraignantes, c'est-à-dire à savoir des amendes énormes et différents moyens de réparation. C'est un très bel espoir, et le livre du CETIM qui vient de paraître détaille très longuement ce que l'on peut obtenir, ce qu'on espère obtenir, mais inutile de vous dire que dès que l'annonce en a été faite de ces négociations, les États européens, membres de l'Europe, donc, se sont retirés. Ils n'ont même pas voulu participer à la discussion pour l'établissement de négociations de ce genre-là. C'est dire que je crois qu'on aura quand même quelques problèmes et que, bon, on peut garder espoir, mais je suis sûr que ça prendra du temps. Et pourtant, il y a urgence, et réellement, pour certains des pays qui, eux, sont victimes de ces agissements, et c'est un dernier exemple tiré de l'actualité, c'est le tribunal d'arbitrage de la Banque mondiale, le CIRDI, a ordonné à l'Équateur de payer 1 milliard de dollars à la compagnie pétrolière américaine Oxy pour rupture anticipée d'un contrat d'exploitation. Or, le président équatorien Rafael Correa, qui était déjà confronté au drame provoqué par Chevron, dont je vous ai parlé, il voulait simplement préserver la santé de la population et de l'environnement. C'est pour ça qu'il a rompu ce contrat, dans les normes légales d'ailleurs. Ça n'a pas empêché qu'il soit attaqué, alors, en réparation, par Oxy, et on lui réclame cette somme considérable qui représente 3,3% de son budget de 2016. Un autre espoir de rappeler ses devoirs au monde des affaires, ça a été la COP21 à Paris. Vous en avez entendu parler, vous avez suivi, vous avez peut-être manifesté aussi en faveur de ça. Ça a été le théâtre d'une mobilisation mondiale de la société civile, mais il faut savoir que la société civile, c'est un terme que nous tentons de définir, du moins dans l'évolution du sens qu'on lui donne jusqu'à présent, le terme de société civile, ça comprend aussi le corporate. Donc les entreprises font partie de la société civile, il faut savoir ça, dans la tête des Nations Unies, et des gens des Nations Unies et autres, elles font partie de la société civile, c'est pas nous, c'est pas les mouvements sociaux et citoyens à la société civile, c'est nous et, quelque part, nos cibles, nos ennemis. Donc, cette société civile et donc le monde des affaires a balisé la fameuse COP21, qui pour moi est un échec, évidemment, même si c'est signé par des États. Ça avait été balisé lors d'un Business and Climate Summit qui s'était tenu en mai 2015 à l'UNESCO, en plus. Les industriels et entrepreneurs, parmi lesquels on retrouve les plus grandes firmes du genre Areva, Unilever, Shell, Union Carbide, Chevron, Monsanto, etc., ils se sont mis d'accord sur le principe d'une croissance verte qui ne gêne pas leurs actuelles activités et donc ne résout en rien les défis essentiels de l'heure. Et de plus, je m'excuse d'être un peu technique, mais c'est important parce que c'est la réalité de ce à quoi nous nous opposons. Lors de la conférence sur le financement du développement organisée par les Nations Unies en juillet 2015, les États et le secteur des affaires ont décidé de rassembler une somme de 2 500 milliards de dollars. Mais, ces mêmes États ont échoué à élaborer une véritable lutte contre l'évasion fiscale pratiquée par les multinationales. Or, cette évasion fiscale prive les pays en voie de développement de 100 milliards de dollars chaque année. 100 milliards de dollars chaque année. Les pays européens eux-mêmes perdent chaque année 1 000 milliards d'euros, ainsi que le soulignait Herman Van Rompuy lui-même au temps de sa présidence européenne. Herman Van Rompuy n'est pas un détestable gauchiste écologiste cinglé, c'est vraiment le nœud du problème. Et les Nations Unies et l'Europe n'ont pas encore réussi à rétablir au moins une justice fiscale. Enfin bref, il y aurait énormément de choses à dire. Le livre est assez relativement complet et ouvre des pistes. Nous l'avons voulu comme un outil citoyen et aussi un outil d'information. Je donne quantité de pistes pour poursuivre vous-même les enquêtes, pour trouver vous-même d'autres sources d'information et le suivi, évidemment, des affaires dont nous parlons. Nous ne voulons pas démonter un vaste complot de maîtres du monde qui seraient les vampires de nos sociétés, mais nous voulions démontrer la logique implacable qui a mené nos gouvernements vers ce modèle d'économie néolibérale façonné par l'école de Chicago dès les années 70. Et donc, il y a tout un historique d'une pensée économique qui vous permettrait de comprendre comment on en est arrivé là. Et entre parenthèses, qui peut peut-être poser des questions aux universités comme celle-ci, à savoir est-ce qu'on enseigne vraiment l'économie aux futurs économistes. Enfin bon, ça, c'est un autre débat. Mais nous avons voulu aussi démontrer que rien n'est perdu, que la justice peut être utilisée pour défendre les droits des populations. Et avant de passer la parole à vous, et à Eric pour répondre à vos questions plus précises sur le droit. Je voudrais renvoyer aux économistes, aux étudiants en économie ou à ceux qui s'intéressent à l'économie une phrase très éclairante de l'économiste Karl Polanyi. Il répondait à Friedman vers 1947 déjà, je cite, « Ne laissez pas l'économie aux économistes, mais rendez-la aux acteurs sociaux. Une économie qui mène sa propre vie dévore le social et son environnement. » Il était visionnaire. Et selon moi, la meilleure réponse aux exactions des multinationales est simplement plus de démocratie. Je vous remercie. Et donc, Eric, si tu veux.
Vous venez d'écouter la conférence tenue le 5 octobre 2016 par Gabriel Lefèvre, co-auteur avec Eric David du livre « Juger les multinationales » aux éditions Mardaga.
Radio Campus 92.1. Yeehaw!